je commence par me présenter. Donc, je suis professeur d'économie à l'Université de Paris Sud, qui est maintenant l'Université de Paris Saclay. En fait, j'ai essentiellement travaillé sur l'économie numérique, sur l'impact d'Internet sur les marchés, les organisations, les modèles économiques, et aussi beaucoup dernièrement sur les questions d'exploitation des données personnelles et du privé. Alors donc, je vais vous présenter quelque chose qui est aussi fait en collaboration avec Jean-Marc Jossé, qui est déjà beaucoup intervenu depuis tout à l'heure, et qui est chercheur à Orange Labs. Donc, les réflexions, je vais présenter via en prolongement d'une recherche qu'on a faite en commun il y a plusieurs années. Alors, je vais parler donc de l'innovation numérique, mais ça va être aussi dans le prolongement de ce que vient de dire Patrice et des questions de notre discussion. Donc, je vais parler de l'innovation numérique et en quelle manière elle peut être mise au service d'un changement de représentation, un changement de cadre, justement, de représentation des problèmes de mobilité. Et je vais parler essentiellement de la mobilité urbaine, enfin de la mobilité courte distance, et non pas des transports et des transports en général. Et je présenterai, si j'ai le temps, je présenterai aussi une expérimentation qu'on a faite sur le plateau de Saclay sur le développement de nouveaux services de mobilité. On essaie de tester un certain nombre d'hypothèses parmi l'ensemble des hypothèses qui font partie de ce changement de perspective, ce changement de cadre de représentation. Alors, d'abord quelques mots sur l'innovation numérique, qui est donc une déclinaison particulière de l'innovation, parce que ça permet quand même de recadrer un peu certains éléments de discussion. Donc il s'agit incontestablement d'une révolution technologique, c'est pas n'importe quel type d'innovation. Les anglo-saxons parlent de general purpose technology, c'est-à-dire des technologies qui ont le potentiel de se diffuser, de s'appliquer finalement à tous les champs d'activité économique, mais aussi au-delà. Puisque ça impacte pas seulement l'économie, mais aussi les relations sociales, la structuration sociale, le droit également, les organisations, etc. Les institutions, ça peut modifier également les comportements. Donc c'est un phénomène qui est pas seulement technologique, évidemment, mais qui est donc multidimensionnel. Et je pense que la raison pour laquelle finalement ces technologies numériques finalement s'applique à un ensemble d'activités très, très large, c'est parce que surtout à l'âge des réseaux, c'est-à-dire en fait à l'âge en gros des systèmes d'information, mais surtout à l'âge d'Internet, donc depuis le début des années 2000, on voit bien que l'objet sur lequel porte cette révolution technologique, ce sont les interactions. Donc l'automatisation avant avait porté plutôt sur le poste de travail, des choses comme ça, donc on améliorait la productivité du poste de travail. Là, l'objet même, ce à quoi s'applique cette révolution technologique, c'est les interactions, la coordination, et donc c'est pour ça que ça a un effet aussi important, puisque ça va modifier la structure organisationnelle de l'économie, hein, les marchés des organisations, mais ça va aussi modifier la structuration sociale. On a eu un grand débat dans 30 ans de la revue Réseau sur est-ce que ça change l'amitié, enfin, les réseaux d'amis, etc. Bon, il y a des discussions là-dessus, mais ça a donc des effets sur également les relations sociales et la codification de ces relations, c'est-à-dire en fait aussi le droit. Et on voit bien que le cœur d'Internet, c'est évidemment les réseaux, et c'est aussi la notion de plateforme aujourd'hui qui est devenue une notion centrale de l'économie numérique. Alors, le fait que ça porte sur les interactions, sur la structure des relations, évidemment, on voit bien que ces technologies vont se diffuser à la condition qu'il s'opère des changements organisationnels, des changements dans les structures de relations. Sinon, ces technologies ne vont pas se diffuser dans la société ou dans l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, on n'est pas dans le déterminisme technologique où c'est la technologie qui va déterminer ces changements, mais au contraire, la technologie, la diffusion de la technologie, la manière dont elle va se diffuser est profondément conditionnée par ces changements organisationnels, sociétaux. Et c'est la raison pour laquelle il y a un décalage entre, on dirait, le temps de la technologie, qui est extrêmement rapide, tu rappelais la loi de Moore, et puis le temps des changements sociétaux, organisationnels, sociétaux, juridiques, qui est beaucoup plus lent. Et on voit donc, c'est la raison pour laquelle on peut dire que finalement on n'est qu'au début du processus de cette révolution. On n'a encore rien vu d'une certaine manière. Les principaux changements sont certainement davantage à venir qu'ils n'ont été passés. Voilà, donc j'ai repris une expression d'un historien économiste américain qui dit, à propos de l'exemple de l'électricité, qui est la précédente révolution technologique, en disant il y a un temps pour c'est le contraire, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Alors, il s'agit donc d'innovation radicale. Alors, là, je me permets quand même de rappeler la notion centrale que vous devez connaître de destruction créatrice, qui a été employée pour la première fois par un historien, un économiste en fait, austro-américain, qui s'appelle Joseph Schumpeter, et qui a avancé cette idée donc, de l'innovation comme un processus de destruction créatrice. Je trouve que c'est très vrai. Si on prend l'exemple du numérique, c'est-à-dire que vous avez un aspect de destruction des industries anciennes, des produits anciens. On l'a vu avec Kodak, l'analogique, c'est fini, c'est maintenant le numérique. Destruction des techniques, destruction des compétences, destruction aussi évidemment des firmes installées qui peuvent disparaître. Par rapport à ça, on a une résistance des firmes installées qui font la résistance, donc c'est bien normal, qui elles veulent protéger leur rente et plutôt le statu quo. Et tout ce mouvement est animé par la rapidité du progrès technologique, qui est quand même assez extraordinaire dans l'exemple du numérique. C'est-à-dire que personne n'arrive à maîtriser finalement ce progrès technologique. Parce que dans l'histoire économique, le cas est classique, c'est que vous avez une innovation, concurrence, tout ça amène finalement plus ou moins à des monopoles, et les monopoles, une fois qu'ils contrôlent la situation, ils vont ralentir le progrès technique, ils vont le figer pour un certain nombre de temps, et ils vont exploiter finalement cette situation, ce qu'on appelle une Europe de monopole, pendant 30 ou 40 ans, jusqu'au moment où, comme dans le télécom, ils n'ont pas pu fermer complètement l'entrée, il y en a d'autres qui sont entrés. Mais là, c'est assez fascinant que dans le numérique, c'est pas possible. C'est-à-dire que en fait, cette révolution technologique, elle a une cinquantaine d'années, pour la monter aux années 50, avec différentes étapes. Et on voit que même ceux qui se constituent comme ça en monopole, en quasi-monopole, à un moment donné, on a eu Microsoft, ils ont été contournés par Google, parce qu'en fait, ils ont raté le moteur de recherche. Donc Google s'est infiltré dans cette faille. Ensuite, Google a loupé la marche réseau social, et donc c'est Facebook qui est apparu. Et Facebook est aussi menacé, et donc c'est la raison pour laquelle il rachète comme ça des startups qui ne font pas un seul dollar de chiffre d'affaires, mais ils achètent 15 milliards de dollars, etc. Tout ça pour neutraliser un possible concurrent. Donc, c'est un monde qui n'est pas du tout stabilisé, avec des situations extrêmement instables, des modèles économiques qui sont très incertains, puisque la plupart des firmes, finalement, ne sont pas viables, pas profitables, au moins directement. Et je pense qu'on est dans ce que j'appelle moi, une économie des promesses. C'est-à-dire que c'est des technologies qui sortent, et des produits nouveaux qui sortent, des annonces qui sont faites, etc. Mais là, il n'y a pas vraiment de configuration très stable qui sort de tout ça, avec des modèles économiques qui assuraient la profitabilité de ces industries. Donc, si on reprend l'expression de Schumpeter, je pense qu'on est plutôt dans une phase de destruction, parce qu'il est visible, c'est la destruction. Ça, c'est absolument indubitable. On l'a vu avec les industries culturelles qui ont été les premières impactées. On le voit maintenant avec le numérique, beaucoup de discussions sur cette question-là, et on voit encore assez peu finalement le monde qui va sortir de tout ça. Les processus de création sont très émergents, beaucoup d'incertitudes, et finalement on ne sait pas très bien encore qu'est-ce qui va se dessiner. Alors c'est une situation qui est quand même extrêmement intéressante, surtout pour nous chercheurs, qui essayons de comprendre cette situation. Alors, dans le domaine, oui, dans le domaine du numérique, bon, ça, vous connaissez ça, en fait, on a... alors là, je vais plutôt prendre effectivement le terme de mobilité, qui me paraît plus juste que le terme de transport. Donc la mobilité est fortement aussi impactée par le numérique de différentes manières, avec les systèmes de transport intelligents, régulation de trafic, coordination multimodale, déplacement, stationnement, tarification, etc. Ensuite, des applications qui sont plutôt centrées sur l'utilisateur, on y reviendra tout à l'heure, et qui permettent d'accéder à de nouveaux services, par exemple de covoiturage, de navigation, aussi d'outils de divertissement et qui sont organisés autour de plateformes qui permettent de coordonner, de faire interagir les individus entre eux. Puis n'oublions pas aussi ce qui me semble extrêmement important, l'équipement numérique des lieux physiques de la mobilité, c'est-à-dire aussi bien les lieux qui sont mobiles comme les voitures, les bus, les trams, le chemin de fer aussi et les avions. Puis également tout ce qui est immobile, à savoir les gares, les espaces de coworking, les tiers-lieux aujourd'hui, qui sont des moments immobiles de nécessaire à la mobilité, et qui sont centrés sur le numérique. Alors, il y a donc des attentes qui sont quand même extrêmement fortes par rapport à cette... révolution de la mobilité grâce au numérique, c'est surtout la maîtrise des coûts qui sont associés à la croissance métropolitaine. Donc, on connaît les coûts de pollution, de congestion, de sécurité, etc. Mais également de fortes craintes parce qu'il y a de nouveaux entrants qui entrent très rapidement, qu'on n'attend pas forcément dans le domaine de la mobilité. Google avec sa Google Car, mais Apple aussi, il paraît que la Apple Watch ne marche pas très bien, n'est-ce pas Jean-Marc, qui en a eu une bracelet, et que en fait le vrai relais de croissance de l'iPhone serait une voiture Apple, pourquoi pas. Donc il y a de nouveaux entrants, on l'a vu aussi avec les services de navigation Waze rachetés par Google, le covoiturage avec BlaBlaCar. Bon, c'est quand même l'indication que ce monde est en train de changer. Les acteurs historiques, on en a parlé tout à l'heure, qui sont en prix de revers, hein. Les opérateurs de transport, les constructeurs automobiles, ils ont peur de se faire doubler par Apple ou Google. Puis les autorités organisatrices de transport aussi, qui régulent le monde ancien de la mobilité, mais qui ne sont pas forcément adaptées finalement au monde qui est en train de se dessiner. Et puis le terme d'ubérisation, ça c'est très symptomatique qu'il vienne de la mobilité, puisque maintenant c'est le nom générique qui est donné à la destruction créatrice. Maintenant, ubérisation, on parle dans l'hôtellerie, on parle un peu partout. Ça vient de la mobilité, ça montre à quel point cette destruction créatrice a commencé à toucher sérieusement, à ébranler l'organisation ancienne de l'industrie de la mobilité. Alors, là, je vais parler essentiellement des smart cities, plutôt de la composante mobilité de ces smart cities, et des nouveaux services de mobilité urbaine, dont je ne vais pas traiter évidemment de tout le domaine des transports. Du point de vue de la technologie, en fait, on a trois dimensions qui sont assez simples. C'est d'une part, la diffusion des capteurs de partout dans les villes, ce qu'on appelle la pervasiveness de l'informatique, qui se loge dans les téléphones, dans les objets connectés, aussi dans les trottoirs pour le stationnement, etc. Après, on a une couche de communication, qui sont à la fois les réseaux de télécoms qui permettent une communication ubiquitaire, et puis également surtout les plateformes qui vont organiser les interactions, qui vont coordonner les individus, et puis une capacité de type big data, c'est-à-dire de traiter des masses croissantes de données hétérogènes, soi-disant en temps réel, et en retour d'adresser aux individus, via leurs outils mobiles, des prescriptions en matière de comportement de navigation ou de conduite automobile. Alors, l'idée de ces smart cities volet mobilité, c'est évidemment de permettre la poursuite de la croissance métropolitaine, dont on sait que c'est le cadre du développement économique aujourd'hui, donc de poursuivre en minimisant les coûts qui sont associés, c'est-à-dire ce qu'on appelle en économie les externalités négatives. Et finalement, on pourrait définir l'intelligence d'une ville comme la capacité à tenir les deux objectifs, en fait, c'est-à-dire permettre la poursuite de cette croissance urbaine sans bloquer son fonctionnement. Donc, le thème de la mobilité durable. Mais et c'est là où on intervient, on va intervenir les cadres de représentation. Alors, dans la stratégie qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce qu'il, par rapport aux visions un peu traditionnelles, anciennes, est-ce qu'il faut y aller progressivement pour se faire entendre ou affirmer des ruptures? Avec Jean-Marc, on a choisi la rupture, c'est-à-dire de valoriser les oppositions, de maximiser les oppositions, et de façon à faire entendre au moins un autre point de vue. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est un peu caricatural, et là on a un slogan un peu marketing qui est de dire passons des smart cities aux smart citizens. C'est voilà, comment on voit un peu notre affaire. Donc, les gens sont tout de suite intrigués lorsqu'on tient ce discours. Et alors, on va opposer, en fait, en termes de représentation, on va opposer deux façons de voir les choses pour finalement introduire cette technologie numérique dans ces nouveaux services urbains. Il y a une façon traditionnelle que nous, on va appeler Smart Cities. D'ailleurs, cette vision est portée par des grands acteurs du numérique et par des grands acteurs aussi du transport. C'est finalement d'utiliser les technologies au service d'une conception assez traditionnelle de la gestion urbaine, de la gestion des flux, que je vais y revenir, qu'on appelle l'optimisation systémique, en fait. C'est améliorer l'efficacité, finalement, de cette optimisation systémique. Puis une autre représentation qu'on essaie de développer, c'est finalement d'utiliser ces technologies pour faire tout à fait autre chose, d'avoir plutôt une approche bottom-up que top-down, et de proposer une nouvelle représentation des problèmes de déplacement qu'on va appeler Smart Citizen, et qui est fondée sur l'utilisation également de ces technologies. Avec la question, évidemment, comment on peut passer d'une représentation traditionnelle à une représentation de type Smart Citizen, et c'est ce que je vais essayer de développer. Alors, bon, là, on va passer à l'anglais, mais bon, que mon anglais s'est scratché hier après-midi, j'ai pas eu le temps de passer au français. Oui, alors, précisons que nous, on ne vient pas du monde de la mobilité, on vient du numérique, donc on aborde la mobilité à travers le numérique. La vision que nous avons, nous, de la mobilité, des transports, en fait, le contact avec les opérateurs de transport, la lecture de toute la littérature sur l'aménagement, c'est qu'il y a une vision qui est très dominante, qui est de concevoir la ville comme un système de flux, finalement, de toute nature, de marchandises, de personnes, mais aussi d'informations, d'électricité, d'eau, etc. Et donc, il s'agit d'optimiser ces flux. Enfin, c'est la problématique centrale, quoi, à partir d'une position centrale. Pour nous, c'est le royaume de l'ingénierie urbaine. Et finalement, le Smart City, c'est simplement d'intégrer les nouvelles technologies dont je parlais tout à l'heure, les capteurs, les systèmes de communication et puis l'adressage du nouveau service, d'intégrer ça à cette vision traditionnelle. Et alors, en termes de représentation de vision, lorsqu'on lit cette littérature, c'est une vision assez orwellienne de la ville, et surtout des individus qui circulent dans la ville. Ça, c'est un tableau les photos que j'ai volées à Beaubourg, c'est une œuvre d'art. Mais il semble que c'est assez représentatif finalement de la vision un certain nombre de gens ont de la ville numérique, c'est-à-dire on a finalement une circulation d'individus comme ça, de flux un peu dans tous les sens, avec une très grande complexité, et voilà. Nous recevons une visualisation un peu dynamique justement de ces données de déplacement. Alors, finalement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de capter des informations de toute nature, notamment sur les déplacements des individus, de les traiter par un système d'information et ensuite de les renvoyer aux individus sous forme d'une prescription de comportement, du conseil de navigation. On peut traiter comme ça les gens ou les voitures, enfin, et ainsi optimiser le système dans son ensemble. Bon, pour nous, c'est finalement une extension à l'humain de l'utopie antérieure qui était le système de transport intelligent. Là, la nouveauté, c'est finalement qu'on va prescrire de manière automatisée des comportements des individus. Alors, ce qui nous intéresse, nous, dans cette revision, très grossière, mais voilà, il y a un peu de ce dont il s'agit, le point central, c'est que dans cette représentation, les individus ne jouent aucun rôle positif, puisque finalement, on extrait de l'information de leur comportement, y compris à leur insu, par la géolocalisation, on va traiter cette information et ensuite on va renvoyer des recommandations en matière de mobilité de façon à garantir l'optimisation du système général. Alors c'est sur ce point que nous on a beaucoup travaillé en essayant de proposer un cadre où les individus ont un rôle à jouer, alors que dans le discours des aménageurs et des opérateurs de transport, l'individu est fondamentalement défini comme une source de problème. C'est pas une source de solution, c'est une source de problème. Donc on le traite comme étant une source de problème. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur cette vision, les smart cities, mais en général, elle est portée par de gros acteurs, les solutions techniques, c'est IBM, Cisco, les planificateurs urbains, souvent les opérateurs de transport. Et l'idée, malgré tout, c'est de pouvoir résoudre ces problèmes de circulation, de déplacement par des solutions technologiques. Mais ces smart cities ont beaucoup de mal à se mettre en place parce qu'on a affaire là à des écosystèmes très éclatés, avec des acteurs qui sont extrêmement hétérogènes, des entreprises de toutes tailles, des grandes, des petites, etc. On a aussi affaire à des institutions comme les comités de standardisation ou de normalisation. On a l'irruption aussi des utilisateurs, des communautés d'utilisateurs dans les processus d'innovation, à travers l'exemple de Waze par exemple. On a évidemment les autorités publiques de régulation des trafics. On a les opérateurs de télécom, on a les opérateurs de transport, enfin, tout ça est vraiment très compliqué. Et la question est de savoir, ils ont besoin de se coordonner. Et la question est de savoir qui va être capable de coordonner l'écosystème. À notre avis, les choses bloquent aujourd'hui. En gros, la technologie est là, mais ça bloque complètement. Parce que, évidemment, chaque grand type d'acteur craint les autres, craint d'être désintermédié par les autres, et que ce soit les autres qui occupent le rôle de plateforme, et que finalement ça transforme les autres acteurs en simples sous-traitants. Donc il y a une grande peur là-dessus, qui à notre avis bloque l'innovation, enfin pas l'innovation en tant que telle, sa réalisation, sa mise en œuvre, et notamment à travers le point crucial qui est que personne ne veut partager ses données, parce que Évidemment, les données, c'est l'actif principal, c'est l'actif essentiel. Personne ne veut. Alors, finalement, dans des hackathons, c'est ça. On fait des petites concessions à quelques individus dans une salle, etc. Mais il se méfie également beaucoup, à raison, à mon avis, de l'open data, parce que c'est très certainement des acteurs comme Google et Apple qui vont rafler la mise de l'open data. Enfin, ça ne va pas être des petites startups. Donc là, c'est la raison de se méfier de l'open data. Mais non, tout le monde se méfie. Finalement, il y a pas mal d'expérimentations, mais rien ne passe à l'échelle vraiment. Il y a beaucoup de problèmes. Bon. Laissons ça. Nous, notre approche, c'est de définir une approche un peu alternative. Alors, on reprend le terme à la mode économie collaborative qui ne veut pas dire grand-chose, hélas, mais l'idée, c'est que il est possible, l'idée centrale, c'est qu'il est possible de construire, de développer des services collectifs à partir des interactions individuelles. Donc, dans une approche plutôt de type bottom-up, alors que traditionnellement, les services collectifs sont développés par une autorité centrale, administrative ou autre. Et là, on a un processus d'innovation un peu ascendante en réseau. Et tout ceci est organisé en fait par des plateformes en fait, qui permettent, dont le rôle précisément, de permettre la coordination entre les acteurs individuels de façon à élaborer des services collectifs. Et ça, on peut le voir pas seulement dans le domaine de la mobilité, mais on peut le concevoir dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, etc., dans beaucoup de domaines. C'est ce qu'on a appelé le web 2.0, aujourd'hui l'économie collaborative. Et là, on voit bien que la technologie joue un rôle crucial, parce que en économie, traditionnellement, on dit que les gens peuvent se coordonner soit à travers avec les prix, c'est le rôle des marchés, soit à travers la hiérarchie, l'autorité, c'est le rôle des organisations, qui permet de coordonner les individus. Et là, on voit bien qu'à travers ces plateformes, on a un moyen de coordonner finalement des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs de façon à résoudre les problèmes de coordination et élaborer des services collectifs. Voilà, cette approche qu'on appelle Smart Citizen par rapport à l'autre qui serait Smart Cities. Alors, tout ceci repose sur une hypothèse en matière de comportement, c'est-à-dire que traditionnellement, les problèmes de déplacement, donc congestion, pollution, etc., sont interprétés traditionnellement comme des externalités négatives, c'est-à-dire des effets inintentionnels créés par des individus qui cherchent à se déplacer. Voilà, donc en cherchant à maximiser son utilité individuelle, les individus ont créé des problèmes collectifs, des coûts sociaux qui ne sont pas sanctionnés par un prix. Et à partir du moment où ils ne sont pas sanctionnés par un prix, les individus n'en tiennent pas compte dans leur approche. Phénomène des externalités. Et la solution, évidemment, c'est de discipliner les individus. C'est-à-dire de les discipliner soit par des taxes diverses, péages urbains et autres, ou par des réglementations, des limitations. Donc ça repose en dernier ressort sur une vision des individus, de leur comportement, et dans le domaine de la mobilité, les individus sont donc définis comme des sources de problèmes. On propose une autre hypothèse, c'est-à-dire on dit, bon, les gens certes ont certainement ce comportement, mais également ils ont aussi deux faces, c'est-à-dire que sont capables d'avoir aussi des comportements prosociaux, ils désirent aussi, ils ne désirent pas la congestion, ils ne désirent pas la pollution, on ne veut pas qu'ils désirent la congestion ou la pollution, ils désiraient aussi que ces problèmes soient résolus. Donc ils sont prêts à avoir des comportements prosociaux, et non pas strictement individuelle, donc à être source d'externalités positives. Donc notre problématique, c'est comment les individus pourraient produire des externalités positives. Et là, on trouve on tombe sur un problème qui est bien connu, qui est celui de l'impuissance collective, à savoir que les individus peuvent désirer résoudre un certain nombre de problèmes collectifs, mais ils ne savent pas comment le faire. Et c'est le problème de l'impuissance collective. Donc, si on veut que les individus produisent des externalités positives, des solutions collectives, il faut résoudre ce problème de l'impuissance collective, c'est-à-dire le fait que la bonne volonté individuelle est impuissante dans la mesure où on n'en suit pas à passer finalement de cette bonne volonté individuelle à un résultat collectif. Voilà, donc c'est ça à quoi on s'attaque et on pense que justement la technologie et les plateformes permettent aussi de traiter cette question aujourd'hui. Alors, c'est donc un problème de coordination, et on voit bien que il y a ce qu'on appelle un dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que les gens individuellement voudraient résoudre le problème et aller vers ce chemin où il y a moins de congestion et de pollution, mais on a fait un problème de dilemme du prisonnier parce que je voudrais bien, mais comme les autres ne le font pas, par exemple le covoiturage, prenons l'exemple du covoiturage, donc il faudra bien partager leur voiture, mais comme les autres ne partagent pas leur voiture, moi je ne vais pas partager la mienne, hein. Donc comme chacun pense ça de l'autre, finalement le résultat c'est que personne ne partage la voiture et qu'on a donc une personne par voiture. Donc il y a un problème de type dilemme du prisonnier, et donc le problème c'est comment on résoudre ce problème. Alors, notre thèse, c'est qu'il y a quatre conditions pour changer ça. On n'a pas tout expérimenté, on a expérimenté qu'une condition, ou une condition et demie. La première condition, c'est changer le cadre. Changer le cadre de représentation dans lequel on s'inscrit, le cadre de raisonnement dans lequel on s'inscrit. Parce que Erwin Goffman a montré notamment dans le cadre de l'expérience, il y a une profonde cohérence entre la façon dont on se représente un problème et la façon dont on va agir ensuite pour traiter ce problème. Alors, par exemple, il est impensable et même stupide de faire appel aux individus dans la vision traditionnelle de la mobilité, savoir que les individus n'ont aucun rôle actif à jouer, ils sont source de problèmes. Alors pourquoi faire appel à des individus alors qu'on les conçoit comme des sources de problèmes? C'est complètement absurde. Donc, parce que les gens le sentent bien qu'ils sont reçus et perçus comme des sources de problèmes. Bien dans le discours des opérateurs de transport ou des aménageurs. Il suffit de reprendre tous les documents, on s'est amusé à faire ça, on a fait une petite vidéo d'ailleurs à partir de ça. Donc ces campagnes, alors quand ils le font, abandonner les voitures, etc., ces campagnes sont complètement inefficaces, évidemment. Alors, pour rendre possible ces actions individuelles, il faut changer le cadre, et ça c'est un premier problème. Par exemple, dans l'expérimentation qu'on a faite, il n'y avait pas d'autorité centrale. Parce que dès qu'on introduit une autorité centrale, les gens délèguent leur action à cette autorité centrale. En matière d'aménagement, c'est très fort. On a fait une enquête sur le bateau de Saclay, c'est ça, les gens disent, c'est à l'établissement public de Paris-Saclay, ou c'est à la RATP de résoudre le problème, c'est pas à nous, etc. Donc ils délèguent immédiatement. Donc on a introduit une expérimentation, il n'y a pas d'autorité centrale, ce qui fait que les gens sont confrontés à la question de savoir ce qu'ils vont faire. La deuxième condition, qui nous semble extrêmement importante, surtout dans le domaine de la mobilité courte distance, c'est de mesurer la valeur collective créée par de petits gestes individuels. Parce que quand vous prenez BlaBlaCar, vous divisez votre facture de TGV par 3 ou par 2, vous avez un gain immédiat. Voilà. Par contre, lorsque vous covoiturez tous les jours, vous gagnez quoi? Enfin, aussi bien celui le passager que le... Vous gagnez quoi, peut-être quoi, 2 euros, 1 euro, 2 euros, 3 euros, on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, c'est une faible valeur individuelle. De la même façon, si vous décalez vos horaires de 15 minutes, voilà, si tout le monde le fait, ça permet d'alléger les points de congestion, quelle valeur ça a? C'est un petit geste, etc. Donc ce sont des petits gestes, mais qui ont une grosse valeur collective. Hein. On dit 4 milliards d'euros par an pour le coût de congestion et de pollution pour la région parisienne. Donc ça, ce sont des petits gestes qui ont une grande valeur collective. Et donc le problème, c'est que si on fait uniquement des incitations individuelles, par exemple, le passager va payer 2 euros au conducteur, on voit bien que ça ne va pas marcher. À partir du moment où on dit qu'il y a une très faible valeur individuelle, une grosse valeur collective, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'il faut être capable de mesurer cette valeur collective. Si on est capable de mesurer cette valeur collective et de la renvoyer aux individus, en disant, bon voilà, vous avez, par votre comportement effectif, hein, c'est pas en général, c'est le comportement effectif, vous avez même permis d'économiser tant de CO2 aujourd'hui sur telle zone géographique, là on peut voir ensuite si c'est un effet sur les pratiques, sur les changements de comportement. Donc c'est un point sur lequel on a travaillé et on lance actuellement on essaie de marketer un nouveau concept qui est celui de Quantified Commons. Vous savez qu'il y a les Quantified Self, c'est-à-dire l'idée qu'avec un objet connecté, un bracelet, vous mesurez votre nombre de pas par jour, le nombre de calories, etc. Et si vous renvoyez, donc vous mesurez finalement, vous avez une mesure de l'effort individuel qui fait par jour et qui est renvoyé à l'individu. Avec l'hypothèse que si vous renvoyez cette mesure, voilà, il va essayer de. On a vu des informaticiens qui ne bougent jamais de leur chaise, qui ont dit bah, maintenant j'ai un bracelet parce que c'est pour me forcer à faire plus de pas qu'hier. Quoi. Donc. Je fais une balade à midi. Bon. Bon, il y a un effet. Hein. C'est donc la mesure
c'est
de
l'apprentissage, la rétroaction.
Ouais, c'est la rétroaction. Donc, on voyait que ça fonctionne. Alors, dans notre cas, nous, il ne s'agit pas de mesurer l'effet d'une action individuelle, d'un effort individuel. Il s'agit de mesurer le résultat collectif de multiples efforts individuels. Donc une valeur collective créée par ces gestes, et c'est ce qu'on appelle quantified commons. C'est des communs quantifiés. Ça peut être effectivement du CO2, ça peut être aussi autre chose, ça peut être du temps, ça peut être. Il me semble très important d'arriver à faire d'avoir une mesure de cette valeur collective créée par ces petits gestes individuels. Et de renvoyer évidemment cette mesure et de voir quel effet ça a sur le comportement des individus. Ça, on pense que c'est de nature à résoudre au moins en partie le problème de l'impuissance collective. C'est-à-dire le fait que les gens disent « Bon, moi je voudrais bien faire, mais les autres ne vont pas le faire. » Mais si on prouve justement que à partir des pratiques existantes, bah, ça dégage déjà une valeur collective, et qu'on la renvoie aux individus, ça peut les inciter justement à adopter ces pratiques. Troisième condition, c'est la condition des petites communautés, des small worlds. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est possible de transformer les comportements, de pousser à de nouveaux gestes de mobilité, si ça se passe à l'intérieur de petites communautés, pour un certain nombre de raisons qui sont, par exemple, la confiance, dans le cas du covoiturage. C'est extrêmement important et c'est d'autant plus important si ce n'est pas l'autorité centrale, mais également pour les phénomènes d'apprentissage. On apprend plus facilement si c'est avec des gens que l'on connaît déjà, on fait jouer également évidemment les effets de groupe, dans le cadre de cette petite communauté. Il nous semble que si on regarde le monde numérique et un certain nombre de grandes plateformes mondiales qui sont caractérisées par une très vaste audience, Facebook, 1 400 millions, 500 millions, mais en vérité, ces grandes plateformes mondiales, c'est des plateformes de petites communautés. En fait, Facebook, c'est très frappant. Mais on le voit aussi sur Airbnb, on le voit sur les plateformes de crowdfunding, on le voit aussi sur BlaBlaCar. BlaBlaCar, ils disent, ouais, ok, ils ont 10 millions de membres, mais en vérité, c'est des communautés de trajets. Il y a de petites communautés de trajets avec des gens qui se retrouvent fréquemment parce qu'ils font le même trajet. Et tout ça crée des effets d'entraînement et également de la confiance, et c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs un point qu'on sous-estime là sur BlaBlaCar, le fait que leur succès actuel, ok, il est assez foudroyant, il ne faut pas oublier non plus, quand même un temps de gestation qui est très important entre 2004 et 2011, date de l'ouverture commerciale, on va dire. Il y a quand même 7 ans où ça a été une plateforme quasiment militante de covoiturage. D'ailleurs, les militants de cette époque le reprochent à BlaBlaCar.
Et même chose pour Facebook, qui était à l'origine un réseau d'étudiants, donc fermé, réservé aux universités, et pendant 4-5 ans avant de pouvoir de commencer à se réunir.
Donc on croit beaucoup à ces petites communautés, et évidemment les plateformes réussissent à permettre le passage à l'échelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une plateforme va être nationale ou mondiale ? Parce que ça va être une plateforme de petites communautés, mais la plateforme elle-même va être mondiale. Alors ça, c'est un point que ne comprennent pas les développeurs d'applications actuels, les start-up, qui se lancent dans le covoiturage dynamique, etc., et qui se plantent toutes les unes après les autres. En fait, il n'y a quasiment pas de mise en relation effective. Et nous, on travaillait avec une start-up avec laquelle on va faire des expérimentations, qui s'appelle WeHop, qui font du covoiturage dynamique. Et alors, eux, tout de suite, ils veulent développer une application au niveau de l'Île-de-France, entière, comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des petites levées de fonds, donc ils sont obligés de produire des chiffres d'audience. Et donc, ils sont obligés tout de suite de viser l'audience. Mais alors, ils ont contacté, je ne sais pas combien, 10 ou 15 000 mails. Tout ça pour 2 ou 3 mises en relation quotidiennes. Donc, on leur a dit non, il ne faut pas faire ça. Il faut faire des petites communautés, il faut faire des communautés de trajet. Ça n'a pas de sens d'organiser ça au niveau de la région parisienne. Il faut faire des routes, des communautés de trajet. Alors, ça, ils ont compris maintenant, parce qu'ils disent bon, voilà, c'est comme une ligne de métro. C'est-à-dire qu'on doit aller d'un point à un autre, et puis les gens qui vont fréquemment de ce point à un autre, ils vont se retrouver en utilisant l'application. Donc il me semble que cette condition small world de toute communauté est tout à fait importante, et nous on l'a un peu testé. Et enfin, quatrième condition, c'est il faut trouver des bonnes incitations. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont proposées, beaucoup de nouveaux services qui sont proposés, notamment dans le domaine du covoiturage. On voit finalement qu'il y a assez peu de choses qui marchent. Ce qui nous a assez frappé, par exemple, c'est que quand on a travaillé sur le plateau de Saclay, on a travaillé sur les plans de développement, les plans de déplacement des entreprises que finance l'ADEME. Et heureusement que ces plans ne sont pas évalués sérieusement, parce que l'efficacité de ces plans est quasiment nulle. Enfin, il y a, par exemple, 5% de gens qui décident de faire du covoiturage après ces plans. Enfin, c'est dont 3% abandonnent au bout d'un mois, etc. Donc finalement, il y a beaucoup de nouveaux services qui sont proposés, comme ça, beaucoup de promesses technologiques, mais finalement peu de résultats. Et il y a clairement un problème d'incitation. Comment inciter les gens à utiliser ces services ? Et là, on tombe sur quels sont les types d'incitations qui marchent. Est-ce que ce sont les incitations monétaires ou non monétaires ? Est-ce que ce sont les incitations individuelles, collectives ? Voilà, donc on a voulu tester ça. Alors, je ne sais pas s'il me reste du temps pour.
Oui, on
Combien ?
Ça va 10 minutes.
10 minutes, ouais, on va aller. Donc on a fait une expérience, je vais aller très rapidement, sur le plateau de Saclay. Une expérimentation de terrain, c'est-à-dire que ce n'est pas une expérimentation de laboratoire, c'est vraiment sur le terrain et sur la question du courbaturage courte distance. Donc voilà, on a fait avec, je ne sais pas s'il y a des sponsors, je vais passer là-dessus. Hein. Voilà. Donc, il y avait voilà, c'est mon labo Rythme Paris Sud, il y avait Orange Labs et Michelin. Ouais. On a fait une série d'expérimentations en recrutant des participants. En fait, on en a fait trois. L'un, c'est sur si on change la représentation des problèmes de déplacement, quel va être l'effet sur l'engagement des individus. La deuxième, c'est que, c'est très intéressant, on a proposé une représentation de la mobilité quotidienne. Sous la forme d'une empreinte de mobilité, on suivait leur déplacement pendant une semaine et 15 jours et on restituait leur mobilité sous la forme d'une empreinte en relief, en 3D. Les pics étaient évidemment la mesure du temps passé à un endroit et donc on avait une représentation, je vais vous montrer ce que c'était. Voilà, donc on suivait quelqu'un sur une semaine et 15 jours et. Les pics donc ici c'est la mesure du temps qui est passé dans un lieu. Donc vous voyez comment s'organise la vie d'un individu, comment il circule entre les différents lieux. Et donc si vous avez que deux pics, bah, ça veut dire que c'est vous faites le boulot dodo. Voilà. Vous avez une vie. Voilà. Et alors c'était très intéressant parce que les gens contemplaient, réintégraient la mobilité comme une dimension de leur vie individuelle.
C'est du self.
Oui, Quantify Self.
Appliquer la mobilité.
Donc, si j'ai que deux pics, j'ai une vie de con parce que je vois un boulot de dos, etc. Là, ouais, alors oui, ce pic, c'est parce que je mène les enfants au sport, etc. Enfin bon. Et on voyait ensuite quel était l'effet sur l'engagement de ces individus à résoudre les problèmes de mobilité. Mais je vais vous parler donc de la troisième, principalement sur les dynamiques, sur les motivations, sur les incitations. On a testé un certain nombre d'incitations pour voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Et c'est d'ailleurs ça qu'on veut reprendre et développer ici avec la start-up Clihop. Donc on a fait ça sur le plateau de Paris-Saclay. En gros, on a recruté donc un certain nombre de participants. Et on leur présentait l'expérience que on ne révélait pas évidemment l'objectif de l'expérimentation, mais on disait, ben voilà, là on a une appli, on a développé une appli qui va permettre de mesurer ce qui se passe sur sa clé au niveau des déplacements, si comme il y a beaucoup de problèmes de déplacement sur sa clé, ça peut être intéressant qu'on ait cette mesure, et voilà, enfin, un discours comme ça de ce type. Et on a développé ça sur Saclay. Alors Saclay, c'est une opération assez incroyable puisque on envoie là-bas des gens en marche forcée sans qu'il y ait de logement, de café, de restaurant, de cinéma, de librairie et sans qu'il y ait de moyens de transport. Donc c'est une situation qui est assez dramatique, explosive. Notre enquête, on était au bord de l'émeute. Surtout que là, il y a 25 000 personnes qui travaillent, bientôt 75 000. En octobre dernier, est arrivé quand même 4 000 personnes, 4 ou 5 000 personnes de l'EDF R&D d'un seul coup. Enfin bon, sans que les routes ne changent, sans que les moyens de transport ne changent. Et tout ceci, il y a la vague promesse du grand métro, là, du métro du Grand Paris. On est incapable de fixer une date, mais on dit 2023, d'autres disent 2030, d'autres 2040, d'autres disent qu'il ne viendra jamais. Et donc il y a une situation où, qui est intéressante pour nous, parce que précisément, on ne peut pas forcément déléguer sa responsabilité aux acteurs traditionnels, puisque finalement, l'offre de transport ne va pas être modifiée à court et moyen terme. Donc, situation très très. Alors, je vais passer là. Alors on a développé une application, en fait, concrètement, où on demandait aux gens de déclarer, on n'a pas fait de géolocalisation qui aurait pu inquiéter les gens, on leur demandait de déclarer tous les jours quels étaient les gestes qu'ils faisaient en matière de mobilité, sachant qu'on avait défini trois types de gestes. Voilà, c'est l'écran de cette application. Like, c'est vous avez décalé aujourd'hui vos horaires. Ensuite, drop, c'est vous avez pris quelqu'un en voiture, vous avez été pris par quelqu'un. Et switch, c'est-à-dire que vous avez changé de mode de déplacement. D'habitude, vous venez en voiture et là, vous êtes venu en vélo. Donc, plutôt le choix d'un mode de transport doux, comme on dit. Et également, on leur demandait, par des smileys, de renseigner la qualité ressentie du trajet. Parce que tous les indicateurs en matière de qualité de déplacement sont indicateurs objectifs, le dysfonctionnement du RER, etc. Nous, on voulait la qualité ressentie du trajet, de la même façon qu'il y a une différence entre la température objective et la température ressentie. Et ce qui compte pour les gens, c'est la température ressentie. Là, c'est pareil, on voulait mesurer la qualité ressentie du déplacement et d'en faire un indicateur collectif. Donc, l'idée de l'expérimentation, je résume, c'était que on envoyait un mail régulièrement aux participants, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et à chaque fois, on envoyait une incitation. Donc au départ il n'y avait pas d'incitation, sauf à dire que l'application est lancée, elle marche. Après, donc on a envoyé un certain nombre d'incitations dans le mail, une incitation par mail. Quelles étaient les incitations? Je ne sais pas si je les ai ici, oui c'est ça. Donc en fait, ce qu'on a testé, c'est le quantified self, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens appuyaient sur déclarer une activité, ils gagnaient des points. Donc il y avait le nombre de leurs points. Donc cette semaine, vous avez gagné, vous êtes à 31 points, etc. Et des badges également. Ensuite, on a. Alors là je classe les incitations individuelles, donc le quantified self, des points. Également, on a introduit le quantified commons, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une mesure de la valeur collective qui a été créée par les gestes individuels. Donc on en a introduit deux. C'est premièrement cet indicateur de qualité ressentie des déplacements au niveau collectif. Donc sur notre application, en gros, voilà, il y avait, vous voyez, en haut à droite, là, il y a la voiture avec une pastille bleue. Donc, on pouvait faire changer la couleur de la pastille. Donc, si c'est rouge, les gens aujourd'hui qui sont venus en voiture sont très mécontents. Et si c'est bleu, bon.
C'est vert.
Et puis, on a les transports en commun également. Donc est-ce que ça a un effet de signaler ça, cette qualité ressentie collectivement?
Il faut dire que tout ça s'était introduit en fait comme des nouveautés d'application, c'est-à-dire
oui.
La capture d'écran, c'est en fait l'application finale, mais quand on a commencé, il n'y avait pas tous ces trucs-là.
En fait, donc on introduisait une fonctionnalité sous couvert d'une fonctionnalité nouvelle. Ah oui, on a développé l'application, donc voilà. Alors, on a également à la louche un calcul de CO2 évité justement grâce à tous ces gestes individuels. Et donc là, on l'a indiqué également, vous voyez, les participants aujourd'hui ont évité 1152 kg de CO2. Et puis, on avait également donc des incitations plutôt collectives. L'effet de groupe, c'est-à-dire qu'un jour on a informé certains participants qui appartenaient à une entreprise ou à un établissement que voilà, ils avaient eu une activité très soutenue, bravo. Alors les bravo, je ne sais plus c'est qui, oui. Bravo les Ineria.
C'était la moitié en fait, c'était le groupe, on a séparé en deux,
voilà.
et la moitié des gens de l'IDRIA, Polytechnique, machin, recevaient un mail, il y avait un petit PS dans lequel on disait merci au personnel de l'IDRIA, ou merci aux étudiants de Polytechnique qui ont participé, qui ont bien participé cette semaine.
Donc, en couleur, si ceci, ce post-scrim avait un effet dans l'activité. Et puis, alors, on introduit de la compétition. C'était à un moment donné, bon, on a dit, on a trouvé des classements, en fait, vous permettez de se positionner, le nombre de points permettait de se positionner dans le classement. Et puis, enfin, on a introduit des incitations monétaires avec des lots qui étaient très intéressants pour les premiers. Voilà, les résultats. Tu veux commenter
ça? Oui, mais là en fait, c'est la manière, c'est un peu la cuisine interne.
Ouais. Oh, c'est la cuisine, bon, on va vous passer la cuisine.
Directement à l'interprétation voilà. Des résultats, oui. Donc ça, c'est. En bleu, c'est la courbe qui correspondait à l'utilisation normale de l'application. Donc on avait les gens avaient des rappels trois fois par semaine. Donc ça fait une courbe de participation régulière, une espèce de cyclicité de participation. Et ce que vous avez en noir, là, en fait, c'est les résultats observés.
C'est en rouge, enfin bon.
C'est en rouge, mais là, c'est en noir.
C'est en noir, là. Non, c'est en rouge sur l'écran.
Toi, c'est en rouge, mais là, c'est en noir. Donc, la différence entre les deux, ça nous permet de voir quelles incitations ont découragé les gens ou, au contraire, encouragé les gens à participer. C'est tout ce qui était expliqué avant, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est, et je crois qu'il y a un slide derrière qui fait le résumé de tout ça, Alain.
Donc ça, c'est les différentes incitations en bas.
Voilà.
Et voilà.
Voilà. Donc ça, c'est les résultats. Et bon, donc les résultats extraits, on voit qu'en fait, il y a eu deux choses qui ont été décourageantes, enfin, qui ont démotivé les gens. C'est les incitations monétaires et la compétition. Au moment de la compétition, on voit en plus à chaque fois c'est des effets assez forts, c'est du 40 à 100% de plus ou moins, donc des effets très mesurables. Compétition, à partir du moment où on dit aux gens vos comportements positifs, on va voir quel est le meilleur et le moins bon, ça ne correspond pas, il y a une dissonance cognitive entre les deux. Et puis le deuxième point, incitation monétaire, bon, qui était pourtant importante, hein, c'était une centaine d'euros pour les 15 premiers, parce que donc un truc. Là aussi, ce qui se passe, c'est que l'incitation monétaire, on dit que ça crowd out, enfin, ça supprime toutes les autres incitations. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, si c'est pour l'argent, je ne participe plus, je ne faisais pas ça pour ça. En gros. Donc on se réduit finalement, même pas à ceux qui gagnaient. Il y a eu, on tombait à un nombre de participants qui était inférieur au gain potentiel. Et par contre, ce qui a très bien marché, ben, c'est principalement ce qu'on appelait Codified Common. Hein, c'est vraiment le principe du Téléthon. C'est-à-dire, on a le Téléthon participe tout et puis il y a un gros compteur qui permet de voir tous ensemble ce qu'on a réalisé. Donc là, le principe, c'est de dire tous ensemble, voilà le nombre de CO2. Voilà. Donc dès le moment où il y a un feedback qui est donné de l'action individuelle, donc là, on est à des plus 100% de participation. Et deuxième chose importante, c'était le rappel du groupe. Rappel du groupe d'appartenance. Hein, le petit post-scriptum dans le mail qui disait bravo aux gens d'eux. Et bien, ceux qui avaient eu ce post-scriptum multipliaient quasiment par deux leur participation par rapport à ceux qui n'avaient pas vu cette information.
Donc voilà. Oui, bon, ça c'est. Donc la conclusion de cette expérimentation, c'est que en fait, dans un cadre. Tout dépend du cadre, en fait, les incitations. Dans un cadre qui est coopératif, et c'est celui qu'on avait posé au départ. Finalement, cette application participe du fait qu'on veut améliorer les déplacements en mesurant les comportements, etc. Donc, dans un cadre coopératif, finalement, on sait que si on introduit des mesures de compétition ou des incitations monétaires, il y a un effet comme de crowding out, qui était démontré par les sociologues sur le nom du sang, notamment, ou par Bruno Frey. Par contre, les effets de groupe marchent bien et la capacité aussi à proposer des mesures de la valeur collective. Il semble que ça, c'est des enseignements importants parce que, par exemple, dans nos discussions avec la CAPS, Communauté d'agglomération Paris-Saclay, eux, ils croyaient essentiellement aux incitations monétaires. En disant, tant qu'on n'offrira pas des incitations monétaires, les gens ne vont pas abandonner la voiture, etc. Enfin, c'est le discours qui tienne. Pas forcément. Pas forcément. Si justement, on change. Bon, si on n'est pas dans le cas traditionnel où la problématique des systèmes était négative, où il faut discipliner les individus parce qu'ils sont source de problèmes, si on est dans un cadre coopératif et on essaie de résoudre ce fameux problème de l'impuissance collective, justement par ces plateformes qui permettent de coordonner les actions des individus, voilà, on peut avoir d'autres conclusions. Voilà, et donc c'est ce qu'on essaie qu'on veut essayer de poursuivre, d'analyser, soit avec des startups comme WeHop, une expérimentation avec eux, soit aussi une discussion avec les Vroom, soit avec la SNCF, avec Blablacar, pour développer ce programme Smart Citizen.
Juste en une phrase, de la même manière qu'on dit on ne peut pas prévoir ce que va être l'innovation, ce qu'on peut faire, c'est créer un terrain favorable à. Là, le principe du programme de recherche, c'est de se dire aussi la coopération individuelle, on ne sait pas s'il va se venir, mais on peut avoir un terrain favorable à la coopération individuelle. Et nos trois expériences étaient dans ce contexte-là, de se dire, nos hypothèses, c'est que ce terrain favorable à la coopération individuelle, il est lié à une représentation particulière, à des rétroactions particulières et à des motivations particulières. C'est trois éléments qu'on a explorés dans le plan de recherche. Et une cohérence entre les deux.